en Ukraine. Emmanuel Macron l'a rappelé solennellement cet après-midi. Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe. Où s'arrêtera l'impérialisme russe de Vladimir Poutine qui prétend ramener dans le giron russe les territoires perdus à la chute de l'URSS? Une troisième guerre mondiale est-elle plausible?
Ce chiffre, c'est 756 kilomètres. C'est la distance qui sépare Kiev de Moscou. Donc, distance importante. Et pourtant, depuis ce matin, les troupes russes sont à Kiev ou aux portes de Kiev, puisqu'elles occupent l'aéroport de la capitale ukrainienne. Anna Kolan-Lebedev, vous êtes née en Russie, vous avez vécu en Ukraine. Qu'est-ce que vous ressentez en cette journée funeste?
Vous avez des liens familiaux avec l'Ukraine.
Oui, j'ai des liens familiaux avec la Russie. Je suis née à Moscou, j'ai vécu, étudié, travaillé à Moscou, vécu plusieurs années en Ukraine. Un de mes enfants est né à Kiev. Donc bien évidemment, tout ça est également un terrible déchirement personnel. Je dirais qu'au-delà de ça, nous tous, chercheurs, spécialistes de la zone, sommes aujourd'hui dans un état de sidération. Hein. On est dans une hypothèse à laquelle on se préparait bien évidemment. Ça faisait partie des scénarios possibles. Mais néanmoins, on pensait que le pire des scénarios n'était peut-être pas le plus probable, n'était peut-être pas celui qui allait arriver. La journée a commencé par beaucoup de larmes pour beaucoup de mes collègues et moi-même.
Tara Varma.
Oui, on est très inquiets. Je le regrette hein, profondément, parce que je vous ai dit sur la situation diplomatique et la négociation diplomatique, il faut la poursuivre à tout prix. Je pense que toutes les instances multilatérales sont prêtes à le faire. La question, c'est la personne qu'on a en face et sa volonté à elle de maintenir ou non ce dialogue. Et c'est aussi la question de notre crédibilité en tant qu'occidentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table? Les sanctions, on avait dit qu'elles seraient massives, il faut qu'elles le soient davantage. Et qu'elle ne s'attaque pas juste à l'entourage de Vladimir Poutine, parce qu'il semble être prêt à délaisser totalement cet entourage. Et donc,
qu'est-ce qu'on entend par entourage?
Les gens très proches de lui.
Les députés de la Douma, les oligarques.
Voilà, exactement. Donc il faut que ça touche beaucoup plus d'oligarques. Il faudrait que ça touche son cercle proche. Mais encore une fois, il est prêt à les laisser tomber, eux, pour son objectif final. Donc il y a vraiment un sujet pour nous de crédibilité sur la manière dont on est prêt à protéger les Ukrainiens, à leur apporter notre soutien. C'était la nature des propos que Emmanuel Macron a tenus tout à l'heure, et je trouve de manière très claire. Les Européens sont alignés là-dessus, l'OTAN aussi. Donc voilà, que peut-on faire de plus?
Alors,
Frédéric Ancel, quel est l'enjeu de cette offensive russe? Est-ce que c'est l'existence même de l'Ukraine qui est menacée?
L'existence de l'Ukraine, je ne pense pas, mais la nature du régime, oui. Puisque, bien évidemment, Poutine déteste le régime politique ukrainien depuis 2014.
C'est-à-dire depuis Maïdan.
Ben oui, depuis qu'un président démocratiquement élu et ses successeurs ont choisi de se rapprocher de l'Ouest. Alors, sur le plan économique, bien évidemment, dans une certaine mesure, sur le plan militaire, avec une possible, à terme, adhésion de l'OTAN, je rappelle que c'était quand même pas à l'ordre du jour, là. Enfin, c'est quelque chose qui était envisagé. Et ça, pour le coup, c'était une ligne rouge pour Poutine. J'ajoute que la démocratie, c'est quand même pas la nature du régime qui lui plaît le plus. Et la porosité de la démocratie, mais ça c'est vrai dans l'ensemble des dictatures ou des États simplement, entre guillemets, autoritaires, regardez ce qui se passe avec la Chine, c'est quelque chose qui est extrêmement craint, en particulier lorsque c'est aux frontières. Et je voudrais me permettre d'ajouter juste un point, on est d'autant plus stupéfait, en tout cas c'est mon cas, que jusqu'à présent, depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, Poutine avait démontré une politique certes brutale, mais en général pragmatique et même assez prudente, hein, qu'on se souvienne de 2008 avec le Caucase, la Géorgie en particulier, la Syrie où il y est allé massivement avec ses bombardiers après le retrait piteux d'Obama en 2013, etc. Et jusqu'au Kazakhstan il y a quelques semaines. Or là, j'ai vraiment le sentiment qu'il a décidé de franchir un pas supplémentaire et ça nous pose un défi absolument crucial.
Anna Lebedev, vous n'avez pas l'air d'accord.
Alors, sur les objectifs qui sont ceux de Poutine et puis l'historique de cela, nous avons quand même des déclarations ou des signes qui auraient dû nous alerter bien avant. Hein.
94.
94, ce n'est pas encore Poutine qui est au pouvoir.
Non, mais il n'était pas au pouvoir, qui parlait déjà de reconsidérer le territoire
russe. Certes, mais voilà, parler de reconsidérer le territoire russe quand on n'est pas le président au pouvoir, c'est une sorte de conversation que l'on aime bien conduire en Russie. Rappelons-nous de son discours de Munich. Son discours de Munich où déjà, en fait, il positionne en fait l'Occident comme le principal adversaire, celui qui a cherché à humilier la Russie. Alors, en 2014, effectivement, on a un renversement. Hein, on a un renversement très clair. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine, en fait, est investi. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on a On a basculé dans un univers nouveau. Hein. On est passé de décisions dont on peut voir le pragmatisme à un univers où, en fait, on a davantage un acteur politique porté par une mission, hein, par la sensation d'avoir à accomplir une mission historique. Et qui dit mission, dit possible sacrifice et dit possible mission suicide, d'ailleurs, hein, pour lui ou pour la Russie.
C'est ça qui est nouveau.
Mais Tara Marma, qu'est-ce que c'est l'objectif de cette mission ? Est-ce que c'est de punir les Ukrainiens de trop regarder vers l'Occident, ou est-ce que c'est de reconstituer l'Empire russe ?
On nous dit beaucoup qu'il y a une volonté impériale, c'est ce qu'on entend particulièrement. On nous dit aussi qu'il a un attachement à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'au-delà des autres anciennes démocraties populaires, l'idée que l'Ukraine puisse échapper à la Russie, ça l'inquiète particulièrement. Et finalement, tout ce qu'il a mis en œuvre de manière répressive ces dernières années, a plutôt poussé l'Ukraine vers l'Union européenne, vers l'OTAN. Alors effectivement, Frédéric Ancel l'a dit, l'adhésion à l'OTAN, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais par contre, l'exigence de Poutine que cet élément-là apparaisse très clairement, c'est-à-dire que l'Ukraine n'adhérerait jamais à l'OTAN, que ça apparaisse dans des documents, les Occidentaux ont été clairs sur le fait qu'ils ne céderaient pas là-dessus. Mais s'il veut reconquérir l'Ukraine, et je pense au sens littéral du terme, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement, ça n'a pas l'air de pousser les Ukrainiens dans ses bras.
Frédéric Ancel, l'Ukraine a les moyens militaires de se défendre contre cette offensive russe. Est-ce que l'armée est au niveau ?
Mais en aucun cas. En aucun cas sur le plan quantitatif, sur le plan qualitatif, sur le plan géographique. Parce que là, potentiellement, Poutine intervient sur trois fronts. Pas potentiellement, réellement. Et potentiellement sur quatre. Parce que je rappelle qu'il y a comme une division russe en Transnistrie. Alors, je vous en fais grâce, mais enfin, c'est en Europe orientale. Donc, en fait, il y a quatre fronts. Non, absolument pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui peut, et je poursuis sur votre question, qui pourrait militairement l'empêcher d'aller plus loin ? Personne. Et pour cause. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Souvenez-vous, pardon, j'y reviens, pour moi c'est un paradigme important, de la Géorgie en 2008. Le président Saakashvili à l'époque a cru pouvoir compter sur l'intervention des Occidentaux parce que lui était très favorable à l'Occident. Sauf que l'OTAN ne va pas faire la guerre à l'extérieur. Attention, face à un titan, face à une puissance, on peut très bien envoyer des troupes pour aller chasser le pirate en mer Rouge, on l'a fait, voire pour aller chasser des gueux en Afghanistan. Mais certainement pas contre Poutine. En revanche, je pense que ce qu'il risque, Poutine, parce que là, je pense qu'il prend de très gros risques, sans doute pour la première fois, je le répète, depuis 20 ans de pouvoir, c'est de voir l'OTAN non seulement réhabiliter et reprenant du lustre et de la cohésion, alors que Trump avait voulu la casser, hein, contrairement à Biden, c'est de voir des pays comme la Finlande et la Suède rejoindre l'OTAN, et enfin de voir une mobilisation partielle des troupes et des matériels sur des frontières qu'on voit très bien ici, c'est-à-dire celle de la Pologne, de la Slovaquie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Et là, je ne vois pas très bien à terme, du coup, ce que Poutine pourrait gagner, parce que, je le dis d'un mot, si l'armée russe aujourd'hui est infiniment puissante, puissante que l'armée ukrainienne, en revanche, face à l'OTAN, elle ne ferait en aucun cas le poids.
Anna Lebedev ?
Je souhaiterais ajouter à ce qui a été dit, bien évidemment, il y a une asymétrie très forte entre les armées russes et ukrainiennes. Cependant, il y a une différence entre occuper un territoire, la Russie peut le faire très vite, et installer son contrôle sur un territoire. Et là, ça va être très compliqué. Si vous voulez envoyer des obus de loin sur les aéroports ukrainiens, c'est une chose.
Les aérodromes ont été détruits à cette
heure. Oui, tout à fait. Pardon. Mais quand il s'agira pour le soldat russe, dans son blindé, d'aller tirer sur des civils qui lui ressemblent, qui parlent la même langue, qui pourraient être ses voisins et ses cousins, on sera dans une autre paire de manches face à une population qui, elle, est décidée à résister.
C'est la raison pour laquelle je ne crois pas à une intervention terrestre massive. Du reste, autour de l'Ukraine pour l'instant, il y a entre 200 et 250 000 hommes. Bah, ça ne suffit pas pour occuper un territoire plus grand que la France, peuplé de 45 millions de personnes, dont effectivement, et là je vous rejoins, l'immense majorité est hostile à Poutine et il risquerait de s'embourber dans une véritable, dans une espèce d'Afghanistan bis, toutes choses égales par ailleurs.
On va écouter le patron de l'OTAN.
Oui, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, qui a dit clairement que l'organisation atlantique ne restera pas l'arme au pied. Regardez.
L'OTAN est la plus forte alliance militaire de l'histoire de l'humanité. Nous allons défendre chaque allié de chaque attaque. Raison pour laquelle nous avons renforcé notre présence militaire dans l'est de l'Alliance. Une attaque contre un allié provoquera une guerre contre toute l'Alliance.
Tara Marma, il y a deux façons d'entendre cette prise de position du patron de l'OTAN. Il y a le côté menaçant, nous ne nous laisserons pas faire, mais est-ce que ce n'est pas aussi un blanc-seing donné à Poutine ? Puisqu'en fait, Stoltenberg dit On n'attaquera pas un pays de l'OTAN. Mais comme l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, est-ce que ce n'est pas une façon de dire à Poutine, ben là, vous pouvez y aller. Tant que vous ne franchissez pas la frontière avec les pays de l'OTAN, libre à vous.
Alors sur le premier point, je pense que c'est plus défensif que menaçant. Il remplit son rôle aujourd'hui. Et sur le deuxième point, le sommet de l'OTAN, il doit se tenir ce soir, justement. Vendredi 25. Donc il va y avoir un certain nombre de discussions entre alliés sur les mesures à prendre. Ce qu'il a dit aussi dans sa déclaration, c'est qu'il ne voulait pas, ils veulent avoir une réponse ferme, mais ils ne veulent pas que ce soit interprété comme une escalade. Cet élément-là, il est assez important parce que c'est aussi un élément de langage que Poutine utilise depuis le début. C'est-à-dire qu'il a parqué 130 000 hommes à la frontière russo-ukrainienne. Quand Biden a répondu en mettant 8 500 hommes, Poutine s'est offusqué et a dit attention à cette escalade militaire. Alors qu'évidemment, là aussi, on se parle d'une asymétrie, c'est incomparable. Donc ils ont aussi peur de cet élément sur l'escalade qui ferait que Poutine surréagirait. C'est évidemment ça qu'il faut prendre en compte, auquel il faut faire extrêmement attention. Il dit aussi qu'il renforce la dissuasion quand même dans tous les pays de l'Alliance. Donc je crois qu'il y a une volonté ferme de l'OTAN de réagir. Comment est-ce qu'on va aider les Ukrainiens? Vraiment, la nature de notre réponse, qui sera une réponse concertée, on l'a vu avec les sanctions, et c'est assez logique que l'Union européenne ait répondu avec des sanctions. La puissance économique et une réponse à la coercition économique, ce sont les instruments dont dispose l'Union européenne. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sera pas suffisant. Enfin, on a l'impression, malheureusement, que Poutine n'est pas prêt à s'arrêter là. Donc, comment est-ce qu'on réagit pour s'assurer qu'il s'arrête et que ça ne touche pas? Parce que là, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, mais en fait, il est aussi question de Biélorussie aujourd'hui. Il est quand même entré. Donc, on nous avait dit qu'il y aurait une offensive à l'est de l'Ukraine.
Il est rentré par le Bélarus.
Il est rentré par les deux côtés.
Oui, et donc,
il y a aussi le Bélarus qui est en jeu aujourd'hui, qui fait partie de ce moment. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va se développer.
Frédéric Ancel, il y a aussi la question nucléaire. Enfin, je veux dire, c'est une puissance nucléaire, ce qui en rajoute en tragique et en appréhension pour nous tous.
Il se fait fort de le rappeler, le bougre. Ah oui, ça signifie je ne suis pas content du tout. C'est-à-dire que là, si vous voulez, le nucléaire est entré au moins depuis la crise des missiles de Cuba en 62, où là, il y a eu une vraie... On était au bord de l'apocalypse. Depuis, ça a été conventionnalisé sur le plan sémantique et diplomatique, en quelque sorte. Quand un chef d'État parle du nucléaire de cette manière-là, c'est que réellement, il est archi déterminé. Là, je vous rejoins, on ne l'a peut-être pas suffisamment écouté sur ce plan-là. Donc, je le disais, l'OTAN ne va pas s'attaquer à la Russie, sauf naturellement, si l'un des membres de l'OTAN est directement visé. En dépit de, à mon sens, de ce qui est une erreur de la part de Poutine ces dernières heures, et en tout cas quelque chose de très nouveau par rapport à son pragmatisme froid habituel, je doute quand même qu'il attaque un jour un État de l'OTAN, parce qu'il y a au moins quelque chose qu'il connaît, ce sont les rapports de force militaires. Et là, Stoltenberg l'a très bien rappelé, on a affaire à une alliance extraordinairement puissante. Poutine est tout sauf un apocalyptique. Donc je pense que tant que les frontières de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie et des pays baltes, bien évidemment, tant que ces frontières ne sont pas visées par la Russie, l'OTAN ne peut faire que du défensif de manière, on va dire, proactive.
Alors, une autre dimension de cette guerre, Sonia, on va en parler avec vous, c'est la cyberguerre, propagande et cyberattaque.
Oui, l'attaque militaire sur le terrain a été précédée et accompagnée de nombreuses cyberattaques. Plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens, du ministère des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, mais aussi des institutions financières, des banques, ont été visés. Le réseau Internet a également été touché et un nouveau logiciel malveillant d'effacement des données a été déployé sur plusieurs centaines d'ordinateurs. L'origine de ces attaques, évidemment, ne fait guère de doute. Ces derniers mois, des actions similaires avaient déjà touché les services publics ukrainiens, attribués par Kiev et par la quasi-totalité des experts à la Russie. Depuis la mi-janvier, l'OTAN a annoncé son intention d'apporter sa collaboration à Kiev pour se défendre contre ces cyberattaques. L'Union européenne a annoncé hier le tout premier déploiement de sa nouvelle task force, sa force d'intervention rapide qui est composée de plusieurs experts de la cybersécurité. Tara Varma, sommes-nous face à ce qui pourrait être la première cyberguerre d'ampleur ?
Alors, je crois qu'il y a déjà plusieurs cyberguerres, malheureusement, qui ont lieu. La question qui se pose, à mon avis, c'est plus... On nous a beaucoup dit ces dernières années que, finalement, la guerre s'était déployée sur d'autres terrains que le terrain conventionnel. Donc, on nous parlait de guerres hybrides et de moyens d'atteindre les démocraties, notamment. Et alors, la Russie fait partie de ces États qui ont fait de l'interférence dans les processus électoraux, qui ont fait des tentatives d'assassinat, parfois réussies aussi sur le territoire européen. Il y a eu des cyberattaques, des usines à trolls. Enfin, voilà... Il n'y a pas que la Russie, mais la Russie est experte là-dedans. On voit que finalement, l'hybride, c'est un choix.